33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie d'Appel sur l'actualité. Le vendredi, c'est vous qui choisissez le sujet d'actualité qui vous a interpellé, enthousiasmé ou indigné et vous nous en parlez en direct, la Libre Antenne. C'est parti. Direction d'abord la Côte d'Ivoire où l'État a décidé de dissoudre la FECI, le puissant syndicat étudiant qui depuis des années était accusé de semer la terreur sur les campus. Bertin, bonjour.
Bonjour Madame Chantal.
Vous nous appelez
Bonjour
d'Abidjan.
Oui.
Alors Bertin, que pensez-vous de cette dissolution? C'est une bonne nouvelle ou pas?
Madame Chantal, c'est vraiment une très bonne nouvelle, cette dissolution. Moi personnellement, j'en suis entièrement satisfait.
Vous-même, vous avez, vous-même, vous avez souffert du pouvoir de nuisance de la FECI?
Oui, effectivement, j'étais sur le campus et je suis encore d'ailleurs puisque j'ai pas fini. Seulement que sur le campus, là, on peut retenir que la FECI a entièrement s'est écartée de sa mission de départ qui était de protéger, de défendre les droits des étudiants et élèves de Côte d'Ivoire. Voyez-vous, par exemple, quand nous étions sur le campus, dans le temps à l'université d'Abidjan, nous payions les droits d'inscription physiquement dans les guichets au campus. Mais il s'arrangeait toujours à mettre le cafouillage et prendre des sommes de 1000 francs à chaque étudiant avant de payer la somme,
Donc c'est du racket, hein, c'était du racket.
Oui, oui, voilà, c'est du racket, ce sont des exactions. Et ça va plus loin, puisque quand nous payons également les cadres de bus au sein du campus, je précise, ils venaient avec les mêmes techniques. Là, c'était les sommes de 500 francs et vous êtes obligé de payer pour pouvoir recharger ou payer la carte de bus. Vous voyez, bon, après ça, puisque l'État s'est arrangé pour qu'on paye ces droits-là en ligne, donc ils n'avaient plus le pouvoir de soutirer de l'argent, ils se sont quand même accaparés de toutes les toilettes publiques au sein de l'université. Maintenant, avant d'aller se soulager dans les toilettes, il fallait payer.
Mmh.
Et c'est 100 francs.
Alors non seulement il y avait donc le racket, les violences, les humiliations, les viols, mais la mort de deux étudiants a été l'affaire de trop. Six membres de la FECI ont été arrêtés et sont maintenant poursuivis pour association de malfaiteurs et assassins. Pourquoi ce règne de la terreur de la FECI a-t-il duré aussi longtemps selon vous? Pourquoi est-ce que les autorités fermaient les yeux?
Bon, selon moi, les autorités n'ont pas mis le regard de près sur cette fédération. Peut-être qu'ils se sont dit que c'était une organisation responsable qui pouvait se gérer sans commettre des crimes et autres animosités. Mais lorsqu'il y a eu meurtre, il fallait que le gouvernement prenne ses responsabilités.
Voilà.
Lorsqu'il y a eu meurtre, il y a eu quand même, il y aura, selon la procédure, une information judiciaire. Et je suis sûr que l'État va situer les responsabilités pour punir ces personnes qui ont commis ces meurtres.
Merci beaucoup Bertin de nous avoir appelé. Bonne journée à Abidjan. On part maintenant pour la RDC où le projet du gouvernement de révision de la Constitution ne fait pas du tout l'unanimité. Olivier, bonjour.
Bonjour Madame Chantal, bonjour RFI, la Radio Mondiale.
Vous nous appelez de Kinshasa. Alors Olivier, êtes-vous d'accord ou pas avec ce projet de révision de la Constitution?
Je suis parfaitement d'accord avec ce projet portant sur la révision constitutionnelle parce que, Madame, une loi fondamentale n'est pas un statut figé pour l'éternité. Elle doit s'adapter aux réalités sociales changeantes de l'environnement dans lequel cette constitution a vu le jour. Donc je ne vois aucun mal qu'elle soit révisée.
Mais la question qui fait débat, hein, c'est le rallongement éventuel du mandat présidentiel. Qu'est-ce qui justifie, selon vous, de rallonger le mandat, de le faire passer de 5 ans à 7 ans?
Ça, c'est le discours de l'opposition. Quand on veut réviser la constitution, il n'y a pas que le mandat du président que l'on va toucher. Mais je comprends, si demain, parce que le président lui-même avait dit qu'il ne fait pas cas du mandat, Mais si la commission qui sera mise en place l'année prochaine, décide que l'on puisse toucher à ce mandat, je n'y vois aucun inconvénient parce que 5 ans, après tout ce peu, il nous faut passer beaucoup plus de temps en travaillant qu'en votant ou en passant aux prochaines élections.
Olivier, je vais vous lire un message qu'on a reçu d'un auditeur. Étienne-Marie nous écrit de Yaoundé. Ce n'est plus un secret pour personne en Afrique en général et en particulier en RDC. Quand on veut se maintenir aussi longtemps que possible, on trouve des astuces pour justifier la modification de la Constitution qui pourtant a permis l'arrivée du président en exercice au pouvoir. Cette révision de la Constitution va remettre le compteur des 2 mandats du président à 0, d'où le forcing du pouvoir en place pour réviser la Constitution à tout prix contre vents et marées. Olivier, vous l'avez dit, le président Tshisekedi a déclaré qu'il ne toucherait pas au nombre de mandats. Mais vous avez vu par exemple ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire avec le 3e mandat d'Alassane Ouattara. Donc comme l'écrit Étienne-Marie, pour certains, changer la constitution, c'est l'opportunité de remettre les compteurs à 0 et de faire un 3e mandat. Qu'est-ce qui vous garantit que cela n'arrivera pas en RDC ?
D'abord, la nature démocrate du président Félix Tshisekedi. Je ne le vois pas chercher à se maintenir au pouvoir éternellement comme un dictateur. Cela serait vraiment perçu comme une trahison. Trahison vis-à-vis du combat de l'UDPS, trahison vis-à-vis du combat mené par son père durant toutes ces années. En tout cas, c'est un procès d'intention qu'on lui fait par notre opposition notamment qui peine à mobiliser les gens. Alors, elle saute sur n'importe quelle occasion, notamment le débat de la révision, pour se faire entendre. Mais je ne vois pas le président chercher à allonger le mandat pour se cramponner à des figures. Pourquoi ? C'est faux.
Alors, on va voir ce qu'en pense un de vos compatriotes. Didier nous appelle de Goma. Bonjour, Didier.
Oui, bonjour, Madame Chantal. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio France Internationale. Bonjour à la population de la ville de Goma et de la RDC en général.
Alors vous, ce projet de révision de la Constitution, il vous paraît opportun ou pas ?
La révision de la Constitution me paraît vraiment inopportune. Pourquoi ? Parce que d'abord, la révision, elle est constitutionnelle, il faut préciser, mais le problème, c'est l'opportunité. Aujourd'hui, tel que vous le connaissez, nous sommes en train de traverser une situation tellement alarmante ici en République démocratique du Congo, plus particulièrement ici au nord Kivu, où nous vivons actuellement, avec l'insécurité grandissante, même 23 qui continue toujours à avancer, des gens sur le territoire de Walikale, qui est tombé entre les mains des rebelles. Vous voyez, ça fait déjà 6 territoires qui sont occupés par les 23, dans les 6 territoires. Qui sont ici au nord Kivu. Aujourd'hui, nous disent qu'il faut en tout cas réviser la Constitution. C'est une insulte de la part de cette population qui continue de traverser une situation tellement dramatique. Mais ça fait bientôt 2 mois que nos enfants sont encore à la maison parce que depuis qu'il y a eu la rentrée scolaire jusqu'à aujourd'hui, par manque de paiement de nos enseignants, ils sont encore à la maison, les enfants n'étudient pas. Puis on va leur dire qu'il faut réviser la Constitution, parce qu'on ne va pas aussi réviser la Constitution sans moyen, il faut faire le référendum. Cet argent que l'on prévoit pour réviser la Constitution, est-ce qu'on ne peut pas vraiment le payer les enseignants ? Nous voyons vraiment que si vraiment nous avions des dirigeants sérieux qui comprennent la situation, qu'est-ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, qui ont une certaine conscience, devrait réfléchir sur comment résoudre les problèmes que nous sommes en train de traverser et non nous amener encore ce débat qui cadre encore avec la révision constitutionnelle pendant ce moment que nous sommes en train de traverser.
Merci Didier de nous avoir appelé et d'avoir exprimé votre point de vue qui est différent de celui d'Olivier. Merci à tous les deux en tout cas d'avoir participé à cette libre antenne. Jour J-4 avant la présidentielle américaine, Kamala Harris ou Donald Trump, impossible de prédire qui l'emportera, les sondages sont ultra serrés. Achille, bonjour.
Bonjour Madame Chantal,
bonjour à tous
les Congolais.
Vous nous appelez de Lubumbashi en RDC. Qui est pour vous le mieux placé pour gagner et pour quelle raison ?
Oui, vous l'avez dit au sommaire, Madame Chantal, que c'est une présidentielle, vraiment une série qui ne laisse pas vraiment l'opportunité à qui que ce soit pour prédire qui de qui sera vainqueur. Mais sinon, selon mes consentements, je suis en train de voir Donald Trump remporter cette présidentielle le 5 novembre. Voilà.
Pourquoi ?
Parce que vous allez vous rendre compte d'abord en première position que l'Amérique est une très grande nation, n'est pas prête à être dirigée par d'abord une femme, ce qui donne d'abord la crédibilité à Trump. Et deuxième possibilité, c'est que aujourd'hui, nous avons besoin d'un président qui est capable d'affronter n'importe quelle tentative d'atteinte à la sécurité de l'État. Alors Kamala, ou en général les femmes avec des États aujourd'hui qui sont en conflit de gauche à droite, des pressions peuvent faire à ce que la gestion de Kamala tombe dans une situation où l'Amérique ne va plus se retrouver sur les relations ou extérieures, politique extérieure de l'Amérique.
Achille, je vais vous lire le message de Pierre qui nous a écrit de Libreville à propos de Donald Trump et je vous demanderai de réagir juste après. Alors Pierre nous écrit, est-ce que quelqu'un peut nous expliquer pourquoi des millions de personnes suivent ce monsieur frappé de dizaines de chefs d'inculpation, qui a fait de l'injure son langage favori, qui verse des torrents de dérapage sans que cela choque. Plus curieux, il est clair qu'il sue la haine pour les minorités, menace clairement la démocratie qui, avec son élection, que Dieu nous en préserve, va faire vaciller la démocratie en Occident au bon plaisir des Russes, Chinois et consorts. Achille, que répondez-vous à Pierre ?
Ce n'est qu'un point de vue émis par les compatriotes, parce que la plupart aujourd'hui, je comprends que les discours de Trump a beaucoup touché surtout les Africains. Lorsqu'il évoque le cas de migration, ils prennent ça de racisme. Alors, ce qui fait à ce que Trump manque la crédibilité, et surtout en Afrique. Voilà. Ce n'est qu'un point de vue pour les compatriotes. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, la plupart de nos chefs, que ce soit en Afrique, en Amérique ou en Europe, vous allez comprendre que les discours sont toujours des discours qui touchent vraiment, qui laissent surtout la population en désespoir. Nos présidents n'ont pas maintenant des langages à séduire la population. Ils sont trop agressifs dans leurs discours, surtout quand il s'agit de l'opposition. On se rend compte que la conscience n'est pas maintenant politique, c'est que ce sont des esprits de vengeance. Donc ce n'est que son point de vue, mais vie...
Effectivement, c'est son point de vue, on a aussi compris le vôtre, et on va essayer de voir quel est le point de vue d'Albert. Albert, bonjour.
Bonjour Chantal, comment allez-vous ?
Très très bien, merci. Alors vous nous appelez de Cotonou au Bénin. Albert, vous venez d'entendre Achille, et je suppose que vous avez entendu aussi le message de Pierre que j'ai lu. Quel est votre pronostic ? Enfin non, je ne vais pas dire pronostic, hein, parce que c'est impossible de faire un pronostic, mais quel serait votre vœu pour la présidentielle américaine ?
Mon vœu, étant démocrate depuis longtemps, ayant les démocrates dans mon cœur, mon vœu évidemment c'est que Mme Harris puisse, prendre la tête de la plus grande puissance du monde, les États-Unis.
Quels sont ses atouts selon vous ?
Alors, ses atouts sont des handicaps pour Trump. Ces atouts sont les handicaps pour Trump. Je pense que le fait d'avoir été procureur et même sénatrice, je l'ai entendu hier, ça montre quand même qu'on maîtrise les rouages de l'appareil étatique, qu'on maîtrise l'économie en partie, on maîtrise la politique du pays, on maîtrise quand même les minorités ethniques, on maîtrise toute la problématique du développement du pays. Je pense que ça, c'est le premier atout. Le deuxième atout, elle sera un peu rassembleuse sur la question liée à la division des États-Unis aujourd'hui en termes de pro-migrants, pro-anti-migrants et autres. Elle sera, disons, celle-là qui va être au-dessus de la mêlée, compartiment Trump. Je pense qu'il y a, elle a ses atouts-là, elle va rester au-dessus de la mêlée.
Eh bien, on verra ça. Donc, mardi prochain, c'est la date de l'élection présidentielle américaine. Merci, merci beaucoup, Albert, d'avoir été en ligne avec nous. On va parler du Tchad à présent. Le Tchad qui veut anéantir la puissance de frappe de Boko Haram. N'Djamena accuse le groupe djihadiste d'avoir attaqué dimanche soir une base militaire sur l'île de Barkaram, dans la région du lac Tchad. Bilan, une quarantaine de morts et 37 blessés. Brahim, bonjour.
Oui, bonjour Madame Chantal.
Vous nous appelez de N'Djamena. Alors cette attaque surprise de Boko Haram contre une base de l'armée à la nuit tombée sur l'île de Barkaram, elle vous a surpris ?
vraiment, il nous a surpris et en même temps nous a dégoûtés, irrités, en même temps désolés, quoi.
Alors pourquoi dégoûtés et irrités?
Tout d'abord, permettez-moi, Madame Chantal, de rendre condoléances aux familles éplorées.
Bien
et
sûr.
Surtout, bon rétablissement aux blessés. Puisque d'ailleurs, pour moi, puisque on peut dire la négligence du gouvernement qui a fait tout ça, puisqu'il était vraiment dégoûté, dans la mesure où, en 2022, ce que Marshall a fait sur l'opération, c'est une opération, a pu quand même maîtriser tous ces Boko Haram. Et vers la fin, peut-être le gouvernement s'est endormi, s'est focalisé sur la transition, sur les élections et tout, et puis... En plus, des dizaines de soldats sont tombés encore.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour parvenir à déloger les membres de Boko Haram pour qui les îles du lac Tchad sont un sanctuaire?
Pour moi, tout d'abord, il faut vraiment investir dans ces zones touchées pour réduire surtout la pauvreté, le désespoir qui alimente surtout le recrutement par les groupes terroristes. Et je pense aussi qu'il faut aussi renforcer aussi les alliances avec les pays voisins.
Lesquels, hein?
Surtout le Niger, le Nigeria, le Cameroun.
Mais il y a déjà la force multinationale mixte et ça ne marche pas vraiment, visiblement.
Ça ne marche pas, puisque jusqu'à présent, c'est le Tchad qui mène souvent toute cette opération seule. Avec ses, comme les autres nous considèrent, nous sommes vraiment des combattants, des soldats qui maîtrisent la situation et tout. Mais
donc il faut une coopération renforcée.
Bien sûr, il faut des opérations communes contre ces Boko Haram, puisqu'il faut mêler toujours cette opération commune, madame.
On comprend bien. Merci beaucoup, Brahim, d'avoir participé à cette libre antenne. On parle football pour terminer cette libre antenne. On attendait le sacre du Brésilien Vinicius, attaquant du Real Madrid. Stupeur de ses fans, le Ballon d'Or 2024 a été décerné lundi soir à Paris à l'Espagnol Rodri, milieu de terrain de Manchester City. Souleymane, bonjour.
Bonjour Chantal.
Vous nous appelez de Daloa en Côte d'Ivoire, c'est bien ça?
Chantal, oui c'est ça.
Alors ce Ballon d'Or à Rodri, vous ne l'avez toujours pas digéré?
Je n'ai pas toujours digéré et tout observateur de football ne peut pas digérer ce Ballon d'Or de Rodri cette année.
Pourquoi?
Chantal, prenons comme on appelle les critères du Ballon d'Or, on nous dit que c'est les performances individuelles. En termes de performances individuelles, Vinicius a été fabuleux en Liga, il a gagné Liga, il a gagné Ligue des Champions, il a gagné Super Coupe d'Europe. Il a même éliminé Rodri en quart de finale pour remporter Ligue des Champions. Maintenant, à notre étonnement, on donne comme on appelle le Ballon d'Or à Rodri, laissant Vinicius. Je ne sais pas sur quoi les gars se basent.
Mais est-ce que l'attitude de Vinicius sur le terrain a pu jouer en sa défaveur? Parce que la classe et le fair play font partie des critères d'attribution du Ballon d'Or. Or, Vinicius n'est peut-être pas l'incarnation du fair play et du respect de l'adversaire sur le terrain.
Oh, à cela, on devrait donner, comme on appelle, au pauvre Cavaral, Chantal. Un défenseur,
le défenseur
du Real de Madrid qui a lui aussi gagné tout et il a été performant dans toutes ces compétitions dont on a parlé, que ce soit Ligue des Champions. En finale, il est tri, comme on appelle, buteur. Il a gagné la Liga, il a gagné, comme on appelle, Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe, il a gagné Euro avec Rodri. Il a même été souvent désigné homme du match pendant des rencontres.
Donc
Rodri n'a pas été ni meilleur joueur de son club, ni meilleur joueur de sa sélection, et subitement, il est Ballon d'Or. Bon, moi, je dirais que France Football Club perd de crédibilité, et ainsi, le Ballon d'Or perd de valeur.
Eh bien, merci pour cette expression, Souleymane. On a bien compris que vous n'êtes pas du tout d'accord avec la décision des 100 journalistes qui ont voté pour Rodri cette année. Appel sur l'actualité touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer l'émission. Jessica Taïeb, Caristan Isseri, Chloé Gomez, Tanguy Billon et Raphaël Pazuello. Merci également à Benoît Vandenbroek à la réalisation, à Valentin Blanc au standard et à André Rakovic pour les réseaux sociaux. Priorité santé, c'est dans 10 minutes avec, comme chaque vendredi, questions de femmes, les relations toxiques. On se retrouve lundi, même lieu, même heure. Bon week-end à tous.
Crédit. crédit immobilier de Banque Atlantique, la solution pour financer vos projets immobiliers, vous a proposé appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.